Bonjour à tous. Je vais vous parler rapidement de l'interdisciplinarité, à quoi ça sert, un petit jeu de mots par rapport à mes activités de recherche. Donc, je suis chercheur en écologie forestière à INRAE dans l'unité de recherche écosystème forestier à Nogent-sur-Vernisson. Et donc, je vais vous parler d'un retour d'expérience sur différents projets qui ont été menés donc, en région centre. Et qui associe plusieurs disciplines de recherche. Pourquoi l'interdisciplinarité? Donc, ici, on voit un chercheur qui est un peu tout seul face à une multitude d'items ou de questions qui pourraient se poser face à un panache bien développé d'inserts, que ce soit en termes de biodiversité, donc l'impact de ces animaux-là sur l'écosystème forestier. En termes de patrimoine, c'est une espèce aussi emblématique. En termes de risques sanitaires, à la fois par rapport aux maladies qu'ils peuvent véhiculer. En termes de santé publique aussi, avec les accidents, les collisions. En termes d'attrait pour le tourisme, objet pour le tourisme, donc tourisme de nature, voilà. Pour la chasse, comme une ressource aussi. Et puis, c'est aussi un animal. qui peut contrarier des objectifs de gestion forestière sur certains territoires. Donc, face à des questions complexes, on comprend qu'on a besoin potentiellement de l'interdisciplinarité pour les aborder. Donc, je parle un petit peu de l'interdisciplinarité, hein, on va dire que ce n'est pas non plus ma spécialité, c'est juste que finalement, on y a été confronté ou ça s'est révélé être. Une manière d'approche, une façon d'approcher les questions qui ont été très positives. Donc, la définition qui en est donnée, c'est que c'est l'art de faire travailler ensemble des personnes ou des équipes qui sont issues de disciplines scientifiques différentes. Je sais pas, j'ai des trucs qui apparaissent dans la conversation. Ça veut dire quoi? Rien? Ah non, pardon. Excusez-moi. Ça me distrait, en fait. Donc, comme les sciences de l'environnement, et les sciences humaines et sociales. Donc, j'ai cité ces sciences-là parce que c'est celles que j'ai mobilisées, enfin, qu'on a mobilisées collectivement dans le cadre des projets. Donc, ça a comme intérêt de coopérer, donc multipartenariat. Ça permet de confronter des approches différentes autour d'une même question, d'un même objet, et puis d'aborder une même question ou d'aborder une même question sous différents angles. Donc, l'idée, c'est que ça va enrichir les approches et les solutions. Et on pourrait résumer ça un petit peu à l'expression, en fait, le tout est supérieur à la somme des parties. Parallèlement à une approche qui serait plutôt pluridisciplinaire, où finalement le tout serait la somme des parties. Donc, ce qui est reconnu pour l'interdisciplinarité, c'est qu'elle est nécessaire pour résoudre des questions qui sont complexes, globales, donc à grande échelle. Mais qui ont un sens pour la société, comme tout ce qui a rapport au changement climatique ou la crise écologique qu'on a autour du déclin des espèces actuellement, et donc les impacts potentiels de différentes activités humaines. Moi, je dirais, à travers de l'expérience que je vais proposer, c'est que aussi c'est une manière pour nous, scientifiques, de légitimer un peu la place de la science et de nos objets de recherche par rapport aux questions de la société. Parfois, les questions qu'on aborde émanent en fait d'une demande de la société, mais pas toujours. Et sinon, il faut essayer comme d'intéresser les gens à ce que l'on fait. Donc voilà, je trouve que c'est une manière d'y arriver. Hop, alors, attendez, ça marche plus. Si, c'est bon. Donc, je vais vous parler de deux projets en particulier. Qui ont été financés par l'appel à proposition de recherche interrégionale de Centre-Val de Loire. Dans le cahier des charges en fait, de ces appels à proposition de recherche, c'est des appels où on doit associer plusieurs partenaires. Donc, on est amené à faire de la pluridisciplinarité globalement quand même. Et étant donné qu'on est en région aussi et que souvent les laboratoires ont des activités spécifiques, on est vite confronté en fait, à des partenaires qui travaillent avec des approches différentes ou sur des sujets différents qu'on doit mobiliser au cœur des projets. Donc, j'ai trouvé en fait que cette proposition d'appel à proposition de recherche allait dans le sens de favoriser l'interdisciplinarité. Donc, je vais vous parler du projet Disperse qui abordait la question de la dynamique spatiale et temporelle de l'engrillagement en Sologne et en quoi ça affectait le fonctionnement des écosystèmes forestiers et les services associés. Et d'une certaine manière, pour faire écho à l'actualité, on va essayer de se souvenir de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs des vaches. Après, je vais aborder le projet Costeau, qui est plus récent. Et là, on s'est concentré. Donc, autant Disperse, c'était à l'échelle de la Sologne, autant Costeau, c'est à l'échelle du socio-écosystème de Chambord. Et donc, essayer d'envisager ces ongulés sauvages comme des acteurs dynamiques de ces socio-écosystèmes. Et puis, il y a un autre projet qui a été proposé à l'APR, d'intérêt régional du Centre-Val de Loire, et donc ça fait écho un peu aux remarques de Sébastien, pas de Sébastien, pardon, de Nicolas. C'est un projet qui n'a pas été financé, mais j'espère qu'il sera financé dans le futur. Pardon si j'ai un peu pris de la confiance. Donc, l'idée, c'est d'associer ici les sciences de gestion, comment les pratiques pastorales et cynégétiques affectent la dispersion des plantes par les ongulés sociaux, donc des animaux qui vivent en groupe, comme les cervidés ou alors pour des animaux domestiques comme les moutons. Et notamment, ce projet Diaspore est censé s'appuyer sur la dynamique Pastoloire, qui est pilotée par le Conservatoire des espaces naturels en région Centre-Val de Loire, et donc qui associe le pâturage par des troupeaux de moutons d'éleveurs avec l'espèce Solognotte comme mouton, pour maintenir les milieux ouverts en bord de Loire, donc qui sont des paysages un peu emblématiques de bord de Loire, d'une part, favoriser la biodiversité, pardon, et aussi permettre l'expansion des eaux de Loire lors des crues et limiter en fait les risques d'embâcle. Mais bon, ça c'est pour le futur. Donc le projet Disperse, donc par rapport à l'idée de l'interdisciplinarité, j'ai essayé de présenter ces projets-là comme en fait des champs disciplinaires qui s'entrecroisent, donc l'idée des cercles là. Et donc dans le cadre du projet Disperse, en fait, on avait trois grandes disciplines qui étaient associées, les sciences du paysage avec un laboratoire CEDET de l'Université d'Orléans, les sciences de l'environnement avec un labo INRA, comportement et écologie de la faune sauvage, qui est déjà à mi-chemin entre les sciences du paysage et les sciences de l'environnement, proche de génétique du paysage qui avait été mise en place, l'Office national de la chasse de la faune sauvage, le bureau d'études Biotope, donc une entreprise privée, et Irstea, qui était anciennement, avant de devenir INRAE, auquel on appartient, et qui, dans le cadre de ce projet-là, associait à la fois des questions écologiques et aussi des questions de sciences humaines et sociales. Et parce que cette question de l'engrillagement était une question un petit peu, on va dire, tendue à l'échelle de la région centre. On s'était associé à un bureau d'études en médiation environnementale, transformation consultant, pour aider la concertation dans le cadre de ce projet entre les scientifiques impliqués dans le projet et les acteurs locaux donc, qui subissent ou qui étaient impliqués dans la question de l'engrillagement. Voilà. Alors, attendez. Hop. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc, ça se déclinait en quatre tâches complémentaires. Donc, j'ai gardé les trois cercles parce qu'en fait, il y en a deux qui sont liés aux sciences de l'environnement, donc qui étaient les aspects liés à la mobilité et le rôle écologique des ongulés sauvages dans l'écosystème forestier. Il y avait une partie liée à l'histoire des paysages, qu'on appelle géohistoire. Vous verrez que ça a été repris aussi dans le cadre du projet Costeau. Et puis la partie plus sciences humaines qui était liée à la perception de l'engrillagement et à ses perspectives d'évolution. Donc, ce que j'ai envisagé pour vous présenter un petit peu comment en fait ces éléments s'entrecroisaient et comment en fait ça a permis d'avancer un peu plus sur cette question, j'ai pris des résultats liés à chacune de ces tâches. Notamment la première tâche, quand on est arrivé sur ce projet-là, alors que en fait, c'était un dossier qui avait été déjà pas mal, enfin, qui était d'actualité. Hein. Il y avait un documentaire qui avait été réalisé, il y avait des articles dans la presse locale, Il y avait des études qui étaient menées par l'Office de la chasse sur une dynamique préoccupante de fragmentation du paysage. Il y avait aussi des reportages à la télévision qui présentaient la Sologne comme un paysage de clôture avec plus de 1 600 km de clôture. Donc, au début du projet, en fait, on a eu une stagiaire en anthropologie qui essayait de comprendre quelles étaient les valeurs associées au milieu naturel solognaux et en quoi, en fait, les clôtures pouvaient affecter cette perception. Et donc, dans les valeurs associées au milieu naturel solognaux, donc il y a ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques et les valeurs instrumentales. Donc, les valeurs intrinsèques, c'est en gros considérer le milieu naturel pour ce qu'il est. Et puis les valeurs instrumentales, en fait, ça serait plutôt le milieu naturel comme un espace de ressources dont on peut tirer des services, des biens pour le loisir ou pour des besoins humains. Donc, en fait, ce qui a été retrouvé dans cette tâche-là, pour partie, c'était il y avait l'expression à travers des enquêtes qui ont été menées auprès d'une cinquantaine de personnes, que c'était un espace intime, un jardin secret pour certaines personnes, donc les propriétaires privés en Sologne, et puis que ça permettait aussi d'observer le fonctionnement de la nature. Et par rapport à ça, en fait, les clôtures pour les propriétaires, d'une certaine manière, ça permettait en fait de protéger cet espace intime comme un jardin personnel. Et puis pour les personnes extérieures qui n'avaient pas vraiment accès à ce milieu naturel-là, c'était vraiment une marque d'anthropisation très forte qui empêchait l'enchantement face à la nature et qui limitait en fait le fonctionnement, enfin, la compréhension de la nature, quoi, qui gênait en tout cas. Et en ce qui concerne les valeurs instrumentales, il y avait la question ce qui ressortait, c'était que ça permettait, étant donné qu'on pouvait chasser dans certains enclos de chasse toute l'année, ça permettait d'adapter aussi la ressource cynégétique à des besoins spécifiques, avoir un comportement aussi particulier des animaux. Et puis que ça permettait aussi de séparer les fonctions liées au milieu naturel, avec des endroits où la faune pouvait se déplacer naturellement, et puis d'autres où en fait elle était plus contrainte, et puis dans des milieux un peu plus artificialisés ou avec des besoins un peu plus contrôlés, on va dire. Sur la partie histoire des paysages, donc on avait comme objectif de regarder quelle était de cartographier en fait les clôtures à l'échelle de la Sologne, donc sur les 500 000 hectares. Et ce que vous observez, c'est la carte au début du projet, avec en noir les clôtures complètes, donc qui englobent complètement la propriété, et en rose les clôtures qui étaient partielles. Et on avait fait un focus sur deux communes, une dans le Loiret, Ligny-le-Ribault, où là, en fait, entre 2007 et 2015, on voit qu'il y a une augmentation de la quantité de clôtures à l'échelle de cette commune. Et puis Marcilly-en-Gault, dans le Loir-et-Cher, où là, en fait, c'était globalement stable. Ce qui sortait de cet inventaire-là, c'est qu'il y avait une grande diversité de clôtures, à la fois en termes de hauteur et en termes de qualité, en fait, type de maille. Des fois, ça associait des fils de fer barbelés, des fois non, c'était la haute. Voilà. L'état aussi, la perméabilité qui était très variable. Et donc, dans le cadre de cette tâche-là aussi, on a essayé de comprendre quelles étaient les motivations, enfin, qu'est-ce qui avait amené à l'engrillagement. Sur l'aspect, en fait, mobilité des animaux, on a mené une approche de génétique du paysage à partir de cerfs qui avaient été prélevés à la chasse pour essayer de voir en quoi les clôtures à l'échelle des communes limitaient, en fait, les déplacements des animaux. Et ce qu'on observe que finalement, c'est-à-dire, en fait, si les clôtures gênent le dépassement, alors on s'attend à avoir une structuration forte des populations de cerfs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange formictique, en fait, alors que s'il n'y a pas de gêne, eh ben, en fait, on retrouve des populations qui peuvent se reproduire entre le nord de la Sologne et le sud de la Sologne. Voilà. Et ce qu'on a montré principalement à travers cette étude-là, c'est qu'il n'y avait pas de frein majeur des clôtures sur la génétique du cerf, que le plus grand frein, en fait, qui était, enfin, de clôture de type cynégétique à l'échelle des propriétés, mais que le plus grand frein, c'était en fait la frontière nord-sud qui était liée à l'autoroute A71, où il n'y a pas de passage à faune et qui est doublée par la nationale et aussi la voie ferrée. Pour ce qui concerne le fonctionnement des écosystèmes, et là, je voudrais revenir sur le terme de richesse spécifique qu'on utilise couramment en écologie et qui a été un terme en fait qui, par rapport aux disciplines qui étaient mobilisées, a posé problème parce que justement en Sologne se pose la question des riches et des pauvres d'une certaine manière. Et donc le terme de richesse spécifique est passé très mal en fait dans les réunions de concertation. En tout cas, ce qu'on a montré en termes d'écologie, c'est que il n'y avait pas de diminution de la richesse du nombre d'espèces qu'on observait dans les zones qui étaient clôturées, qui est plutôt une augmentation, et que celle-là était liée en fait à l'augmentation de certains types de plantes, donc les graminées et les dicotylédones herbacées, plutôt des espèces annuelles qui sont favorisées par les perturbations du sol. Donc ça, c'était un point qui allait un peu à l'encontre de faire bouger les choses pour limiter l'engrillagement. Et de la même manière, pour la partie oiseaux, on a regardé en fait les communautés d'oiseaux en propriété clôturée et propriété ouverte. Et on s'en rendu compte qu'il n'y avait pas d'impact négatif de la clôture et des fortes densités d'animaux qu'on pourrait retrouver à l'intérieur des clôtures sur les populations d'oiseaux, et qu'il y avait un effet positif en fait sur les oiseaux qui nichaient au sol, qui étaient favorisés par une abondance de graminées, recouvrement graminées au niveau du sol. Donc voilà pour le projet Disperse. On pourra y revenir après, en tout cas sur les éléments. Ce qu'on peut dire, c'est que. On reviendra après dans la discussion probablement. Sur le projet Costaud, où on a mené aussi une approche à plusieurs disciplines. D'ailleurs, enfin, ce que je voulais dire au début de la présentation, c'est que ces projets-là, quand ils ont été proposés à l'appel à proposition de recherche, on appelait ça des approches pluridisciplinaires. On s'est rendu compte juste dans le cadre du projet en fait, que l'interdisciplinarité était née en fait, de la confrontation de ces différentes disciplines, que ça va apporter une valeur ajoutée en fait, au projet en lui-même, même si au départ, en fait, ce n'était pas forcément identifié comme de l'interdisciplinarité. Dans le cadre du projet Costaud, donc on travaille toujours sur les ongulés sauvages. Et là, l'idée, c'était, dans le cadre du domaine de Chambord, voir comment, à travers la lecture des paysages et la place qui avait été dédiée aux cerfs au cours du temps, en fait, l'écosystème ou le socio-écosystème de Chambord avait été modifié en fonction de ses objectifs. Donc, de la même manière, là, on a associé les mêmes grandes disciplines, sciences du paysage, sciences de l'environnement, sciences humaines et sociales. C'est un projet qui était financé et qui était rattaché aussi à l'intelligence des patrimoines. Et dans le cadre de cette superstructure, on va dire, en fait, on avait des liens aussi avec le projet Solidar sur les données de LIDAR qui ont été utilisées pour nous, pour notre projet sur la dispersion épizoocore par le cerf. Et donc, ça a associé, enfin, l'intérêt aussi, enfin, ce qui a été aussi très favorable à l'interdisciplinarité dans le cadre de ce projet Costaud, c'est que déjà un laboratoire, une UMR comme CITER, en fait, c'est déjà une association de différentes disciplines. Et donc, on avait des membres de CITER qui étaient à la fois des écologues et d'autres des géographes qui ont participé au projet. Donc, ça a été un point très positif pour ce projet-là. Donc, trois volets complémentaires, une sur l'histoire des paysages, donc voir comment les paysages avaient évolué au cours du temps, comment les populations d'ongulés sauvages avaient évolué au cours du temps en termes d'effectifs, et comment les pratiques de chasse avaient évolué aussi au cours du temps. Un impact, un volet sur l'empreinte écologique, donc le rôle des ongulés sauvages dans différents processus. Donc on a étudié la prédation des nids d'oiseaux au sol par les ongulés sauvages. C'était un peu dans la poursuite du projet d'histoire que je vous ai présenté, parce qu'il était souvent dit que les sangliers étaient des prédateurs des nids au sol, et donc on voulait vérifier ça. Et puis, il y avait un volet peut-être encore un peu plus original sur les services culturels, sur en fait, le rôle du cerf comme un élément de la fréquentation touristique qu'on observait autour du château et comment en fait le domaine de Chambord utilisait l'image du cerf ou des animaux sauvages qui étaient présents sur le domaine de Chambord pour façonner leur image. Donc, dans le cadre de l'histoire des paysages, ce qui a été mené, donc, c'était en utilisant des documents anciens et plus récents, comment avait évolué en fait, la couverture sur ce domaine de 5 400 hectares qui est clos. Et donc, on voit que les données de 1600 montrent un domaine à moitié forestier. Un peu avant 1800, on voit aussi une diversité d'occupation des sols, donc avec des zones herbeuses, des zones forestières, des zones de culture en orange, là. Donc il y avait une vingtaine de fermes. Maintenant, on en a plus que deux sur le domaine. Et puis on voit aussi qu'il y avait une vigne qui était présente à cette époque-là, et donc qui va être remise en culture dans le cadre du nouveau projet de Chambord. Par la suite, en fait, il y a eu un gros effort de reboisement sur le domaine de Chambord, et on voit que finalement, la forêt occupe quasiment la totalité du domaine à l'aube du XXe siècle. Et finalement, sur la période plus récente, il y a eu des micro-changements. Donc, ce que vous voyez, les couleurs différentes, progression, recul, c'est comment a évolué la forêt au cours du temps, au cours des 70 dernières années. Et en fait, on voit que c'est plutôt des petites variations locales, mais pas des grandes variations à l'échelle du domaine. C'est-à-dire que la couverture forestière reste à peu près stable. Par contre, ponctuellement, il y a eu des aménagements qui ont été réalisés, notamment ouverture de prairies pour la grande faune et pour des cultures fourragères qui permettent de limiter en fait la supplémentation alimentaire avec du maïs. Donc, c'est plutôt des cultures enrichies avec des espèces riches en azote. Donc, ça, c'est l'aspect géo-histoire. Pour l'aspect processus écologique lié à la grande faune, on a étudié la dispersion épizoocore. Et donc c'est la dispersion des plantes dans le pelage des cerfs. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a essayé de regarder au bout de. Donc ce que vous avez comme graphique, c'est la quantité de graines, c'est un noyau de dispersion, la quantité de graines qui est dispersée en fonction de la distance. Et donc on a regardé pour les graines qui étaient prises en forêt, celles qui étaient relâchées en forêt, pour celles qui étaient en milieu ouvert, celles qui étaient relâchées en milieu ouvert, et aussi celles qui étaient prises en forêt et relâchées en milieu ouvert et en milieu ouvert en forêt. Et donc on voit qu'il y a des différences en termes de distribution pour ces différentes catégories, et c'est lié notamment à la configuration paysagère des patchs de milieu ouvert au sein du milieu forestier. Et on voit donc qu'en fait l'évolution des paysages au cours du temps au sein du domaine de Chambord va modifier en fait la dispersion des plantes par ces animaux-là. Sur un autre aspect lié au processus écologique, donc j'avais parlé de la prédation des nids. Donc on a utilisé des nids artificiels avec des œufs de caille qui étaient posés à différentes hauteurs dans différents types de milieux. Et on a utilisé des pièges photographiques pour identifier quels étaient les prédateurs. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que finalement, le sanglier n'était pas le prédateur principal, même il prédatait très peu les nids qu'on posait et les œufs. Même parfois, ils étaient vus à proximité de ces nids-là sans les consommer les œufs. Par contre, les principaux prédateurs, c'était plutôt d'autres oiseaux, comme le geai, des pics et pêches, et puis aussi des petits mustélidés. Et après, sur les services culturels, l'analyse qui a été faite aussi par différents moyens, donc des entretiens, des mots-clés sur des moteurs de recherche, l'analyse aussi des prospectus, des flyers, et puis les différents projets du domaine de Chambord, ont montré que le château à Chambord reste quand même l'attraction principale du domaine. Mais qu'il y a de plus en plus une mise en valeur de ce patrimoine naturel, avec une gestion forestière qui est orientée pour sa fonction sociale, c'est-à-dire pour l'accueil du public, avec des visites 4x4, la formation aussi des agents de chambord aux questions écologiques. Donc, ils sont capables en fait de tenir un discours qui tient vraiment la route sur l'écologie des espèces, sur le rôle de ces espèces dans le fonctionnement des écosystèmes. Hein. Donc, ils étaient liés au projet qu'on a pu mener. Et donc, ils intègrent les connaissances qu'on a pu développer à leur contact. Ils abordent les aspects paysagers. Donc, il y a de l'éducation via ces visites organisées. Il y a aussi d'éducation avec l'accueil d'écoles et qui met en valeur, en fait, pas que le château, mais aussi son environnement proche. Dans le projet de Chambord aussi, on encourage les projets de recherche. Donc, ça devient un site de recherche privilégié pour faire progresser les connaissances. Donc, on essaye de concilier à la fois la fonction sociale, le fonctionnement écologique, et donc de faire interpénétrer aussi le patrimoine naturel et le patrimoine historique du château. Ceci est d'autant plus vrai depuis la création de l'EPIC. Donc, le domaine de Chambord devient un établissement public à caractère. Enfin, le I, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. C'est commercial, en fait. Donc, en fait, il doit être autonome d'un point de vue budgétaire. Et donc, il devait être autonome à l'horizon 2020. Et pour ça, en fait, il fait le pari d'un univers complet autour de Chambord qui intègre à la fois le château, mais aussi son environnement, notamment avec la création de la Grande Promenade. Et on voit que dans les flyers qui sont utilisés pour Noël, pour la fête de la musique, il y a le château, il y a le cerf avec les instruments de musique, et puis ben ici, le cerf aussi qui contribue, qui participe au repas de Noël. Voilà. Donc, pour finir, ou pour discuter, en fait, l'interdisciplinarité, à quoi ça sert? Donc, sans jeu de mots, cette fois-ci. Je dirais que ça permet d'un peu mieux appréhender les problèmes. Ça favorise aussi les échanges et permet de lever les incompréhensions disciplinaires. Donc, on l'a vu autour du terme de richesse spécifique, par exemple, dans le cadre du projet Disperse, mais c'est un exemple parmi d'autres. Ça ne permet pas toujours de résoudre les problèmes, hein, donc ce n'est pas non plus la panacée. Ce n'est pas forcément simple aussi en fonction des contextes. Hein. Je dirais que le projet Costaud et l'équipe probablement qui était mobilisée dans le cadre de ce projet-là a permis à ce que ça se réalise beaucoup mieux que ça a pu être le cas dans le cadre du projet Disperse, qui était plutôt confronté à une question de société un peu épineuse, en fait, hein, qui est toujours pas résolue. Il y a encore des articles, il y a des projets de loi qui montent encore actuellement pour essayer d'interdire la chasse en enclos, pour modifier le format des clôtures, pour permettre à la petite faune de passer en dessous des clôtures. Enfin, voilà, c'est vraiment encore un sujet d'actualité qui n'est pas résolu. Et je pense qu'au travers de ces projets qui ont évolué, enfin, un peu comme tous les projets, mais c'est-à-dire qu'au départ, les questions qu'on se posait et les réponses qu'on a pu observer à la fin ne sont pas celles qui correspondaient complètement à ce qu'on avait initialement. Donc, ces approches-là nous permettent en fait d'élargir notre vision de la question et puis aussi d'envisager des perspectives pour le futur. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'étais trop long, mais bon.